Décryptualité, semaine 9, année 2022. Salut Manu.
Salut Lucas.
Eh bien, le sommaire de cette semaine, on a un petit peu plus d'articles que la semaine dernière. Le monde informatique. Harvard recense les paquets open source les plus utilisés. Un article de Scott Carré.
Ce sont des chercheurs qui, comme plein d'autres groupes d'institutions, d'associations, se sont mis à s'intéresser au logiciel libre et à dire qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et leur conclusion, semblerait, c'est de lister. Et oui, les gens veulent lister du logiciel libre. C'est à la mode. Je trouve ça assez rigolo.
Oui, ça va un peu dans le sens de ce qu'on avait dit dans nos podcasts de ces dernières semaines. Si on veut commencer à financer les logiciels libres critiques utilisés là comme briques dans différents produits, il faut les connaître. Donc, faire une liste, c'est le premier pas. Siècle digital, la drôle de rançon est exigée par les pirates de Nvidia, un article de Benjamin Terrasson.
Alors honnêtement, c'est un sujet en soi, je pense qu'il faudra qu'on en fasse un podcast, parce que c'est presque drôle que Nvidia, donc une entreprise qui fait des cartes graphiques, mais aussi des cartes graphiques utilisées pour miner des bitcoins, se soit fait hacker, et que le hacker leur fait du chantage, rien de moins.
Tu veux dire pirater ?
Oui, ils se sont fait pirater, mais en même temps, le gars, il essaye de revendiquer un côté gentil. Tu vois, il aimerait bien que, notamment, Nvidia a décidé que les cartes graphiques utilisées pour les bitcoins ne soient pas utilisables à 100%. Elles sont utilisables qu'à 50%, elles sont bridées, quoi. Et donc, lui, il voudrait les débrider. Moi, je suis presque d'accord avec lui, si ce n'est que c'est des bitcoins, mais... Et donc, Nvidia a répliqué.
Oui, ils ont piraté les serveurs qu'ils ont pu trouver où il y avait les données qu'il leur a piquées. Après, bon, l'affaire n'est pas très claire. Hein. Peut-être que, comme ils ont refusé de payer, finalement, les pirates demandent autre chose.
Oui, ils demandent à libérer les drivers, rien que ça.
C'est un petit peu absurde, je trouve, parce que, autant on est pour qu'il y ait un maximum de libre. Mais d'une part, c'est furieusement illégal, et d'un point de vue moral et de liberté, tu ne peux pas contraindre les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Hein. C'est, la liberté, c'est également de ne pas faire du logiciel libre. Et en plus de ça, d'un point de vue pratique, s'ils n'ont pas envie de le faire, ils peuvent bien mettre une licence sur des données complètement inutilisables ou des choses comme ça. Ça n'a pas grand avenir, je pense.
Mais c'est amusant, comme une sorte de bizarrerie.
Acteur public, Laurent Bossavi, les méthodes agiles impliquent une forme de rébellion.
C'est plutôt sympa, il se met en avant. Donc, il se présente comme un coach à beta.gouv.étoile. Donc, en gros, c'est toutes ces idées de faire de l'agile dans les institutions, dans les administrations françaises. Donc, quelque chose que moi, je trouve plutôt intéressant, plutôt bien. Même si ça a donné quelque part, et ça a été un peu repris par Macron, qui a essayé de pousser sur la côté la Startup Nation. Et là, ça nous fait un peu rigoler jaune. Et ça n'empêche, il y a des bonnes idées. Les rituels de la méthode agile, par exemple, sont plutôt intéressants. Ce sont des bonnes pratiques que tout le monde commence à utiliser à la place du cycle en V, un vieux truc tout pourri qu'il faut plus utiliser, il faut plus faire ça. Mais il faut s'intéresser un petit peu à ces méthodes qui viennent du logiciel libre, du monde ouvert, d'Internet, et qui percolent petit à petit, y compris dans les gros mastodons que sont nos administrations. Donc c'est quelqu'un comme lui qui change les choses dans le bon sens, et on peut plutôt approuver, même si après, effectivement, il y a des reprises un peu chelou.
Next Impact, Libre en fait 2022. Un article de la rédaction.
Alors voilà, ça met en avant une initiative de l'April, donc c'est plutôt sympa. Effectivement, tous les printemps, on essaye de mettre en avant des événements autour du logiciel libre et d'en faire une fête. Donc c'est plutôt sympa. Il y en a beaucoup, ils sont répertoriés sur l'agenda du libre, que je produis donc avec d'autres, Cédric Delage notamment, un super modérateur. Plutôt sympa, et on va espérer qu'il y aura beaucoup de monde encore cette année.
Très bien, alors notre... sujet de la semaine, ce sera un peu dans l'actualité, donc non pas l'Ukraine, mais les élections.
Oui, les élections, parce qu'on y arrive, et parce qu'on en sort aussi, c'est-à-dire qu'il y en a eu dans le passé, et rétrospectivement, on peut essayer d'analyser un petit peu, on en a déjà parlé, mais essayer de voir un petit peu l'impact de l'information dans ce domaine-là, de l'informatique aussi, et puis voir, notamment, une approche que je trouve plutôt intéressante, l'impact de l'abstention, qui est plutôt pas mal.
On a été motivé sur ce sujet par un article de Hacking Social, donc hacking-social.com, rédigé par Vicis Axo, donc un pseudo, bien entendu. C'est un article qui s'intitule « Comment manipuler les élections avec l'abstention, l'intimidation et le dégoût ?» Et ça revient sur Cambridge Analytica, dont on a parlé souvent ces dernières années. Et l'article est vachement intéressant parce qu'il va lister toute une série d'infos et faire une sorte de bilan sur ce qu'ils ont pu faire. Et notamment sur une chose qui avait été évoquée, mais j'avais jamais vu d'article qui était vraiment pile sur ce sujet-là, qui consiste à faire des manipulations au travers des réseaux sociaux et de la communication pour inciter les adversaires à s'abstenir afin de favoriser la victoire du camp qu'on va défendre.
Et il se base sur des exemples, sur des cas réels. qui sont inhabituelles. En tout cas, moi, je n'avais pas réalisé qu'il s'était passé ces choses-là. Par exemple, à Trinité et Tobago, où on a dégoûté les électeurs pour favoriser un camp. Donc, d'après Cambridge Analytica.
Oui, l'article, il y a des tas de références. À chaque fois que quelque chose est annoncé dans l'article, il y a des références sur des articles externes et des choses comme ça. Donc, il est bien documenté. Et ça, c'est vraiment super bien. Une des choses qui peut être peut-être une limite là-dessus, c'est qu'il va faire régulièrement référence à la communication de l'entreprise, qui a changé de nom entre-temps. Ces cas-là sont relativement anciens. Mais dans la critique qu'il peut y avoir de ces exemples, c'est de dire, bah, forcément, c'est une boîte qui essaye de vendre ses services, donc ils vont se vanter d'avoir fait plein de choses. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait. Surtout que, bon, c'est un peu des spécialistes en manipulation et en mensonge. Notamment à Trinidad et Tobago, il y avait eu un mouvement, une sorte de mouvement de la jeunesse, qui s'appelait « Douceau » en anglais. Et l'analyse qu'ils avaient faite et la chose qu'ils ont mis en avant, c'est que là-bas, il y a deux grandes communautés qui sont les communautés noires et les communautés indiennes. Et ils avaient établi que les jeunes des deux côtés étaient dégoûtés par la politique, mais que les jeunes des communautés indiennes étaient plus obéissants dans des hiérarchies familiales plus fortes. Et que donc, du coup, en lançant un mouvement sur toute la jeunesse, quelles que soient les communautés, les jeunes noirs allaient s'abstenir, alors que les jeunes indiens n'allaient pas s'abstenir parce qu'ils allaient faire ce que leurs parents disent de faire.
Je trouve que c'est brillant de saleté, mais vraiment, il y a une profondeur dans cette analyse, c'est affreux. C'est vraiment, je jette l'opprobre sur tout, mais il va en rester quelque chose qui sera pas si pire, enfin en tout cas, ça va me convenir. C'est vraiment affreux, mais je peux imaginer que ça fonctionne. Donc, ça me fait mal au cœur, hein, mais je peux imaginer qu'effectivement, tu dégoûtes tellement de gens, mais que ceux qui resteront, ce seront ceux qui sont obligés. C'est juste affreux, hein. Et alors, il donne d'autres exemples, mais et puis, bah, oui, y a eu le passé. Moi, je retiens toujours, hein, c'est Hillary Clinton, hein, où elle s'est fait huer, dégoûter. Il y a eu plein de cas qui sont sortis sur elle pour essayer de dégoûter ses électeurs, pas pour qu'ils votent pour Trump, parce que clairement, ils n'allaient pas aller jusque-là, normalement, mais pour qu'ils n'aillent pas se déplacer le jour même.
Oui, oui, il y a d'autres exemples, notamment en Afrique. Celui-là, il est un peu plus proche de nous, et on avait pas mal parlé, effectivement, de l'élection de Trump. Et quand on regarde le nombre de votes, j'avais fait ça à l'époque, effectivement, entre l'élection d'Obama et l'élection où Hillary Clinton était candidate, on a le sentiment qu'en fait, c'est pas tellement Trump qui a gagné l'élection, plutôt que Hillary Clinton qui l'a perdue. Parce qu'elle avait beaucoup moins de voix que ne pouvait avoir en Obama. Alors même si le scrutin américain est différent, puisque c'est des grands électeurs qui sont élus par territoire, mais quand même, on voyait bien qu'il y avait eu une sorte de désintérêt en disant « on va pas voter pour elle ». Et ils avaient mis le paquet, donc, pour révéler des mails, la mettre en cause, etc., pour effectivement dégoûter ses électeurs.
Alors, moi, je vois quelque chose là-dedans, c'est que, Luc, t'es en train de rouler contre l'abstention, là. Il y a plein de gens qui se revendiquent abstentionnistes. En France, bah, je pense à c'est Manuel Barré, par exemple, hein, j'aime bien. Mais l'abstention, il y a des gens qui disent, non, moi, je ne veux pas légitimer le système politique en place, les élus, par mon vote, même si je vote contre eux. Donc là, t'es en train de dire que ces gens-là ont tort. Hein.
Et alors, c'est pas moi qui le dis, c'est l'article. Non, en tout cas, l'article a cet intérêt de pointer le fait que s'abstenir est dans les manipulations dont on peut être l'objet et dont on est nécessairement l'objet. Le fait de s'abstenir et de dire « je veux pas en être », ce n'est pas nécessairement faire un choix, et c'est peut-être déjà jouer le jeu de quelqu'un d'autre. Et après ça, je comprends complètement cette problématique face à la politique où il n'y a pas d'offre satisfaisante. On dit « ok, je suis censé pas m'abstenir, mais je vote pour qui ?»
Oui, surtout quand tu sais que c'est les milliardaires qui choisissent grâce aux médias qu'ils possèdent et qui vont pousser leur poulain. Donc je peux comprendre aussi ce dégoût-là.
Voilà. Alors dans toute cette question de la communication politique, alors on sait, on en avait parlé, que les réseaux sociaux sont de droite, c'est-à-dire que, et ça a été mesuré, il y a eu des études là-dessus, les idées de droite circulent mieux et plus vite que les idées de gauche, et donc même pour quelqu'un qui est de gauche, on avait parlé des fameuses bulles de filtre où chacun a tendance à voir que ce qui l'intéresse, donc même quelqu'un qui va être très à gauche verra plus d'idées de droite que quelqu'un qui va être à droite, qui lui ne verra que des idées de droite, ne verra jamais des idées de gauche ou presque. Malheureusement, je l'ai pas noté, mais j'avais vu des mentions de sondages sur des grandes valeurs en France. J'ai vu ça aux États-Unis il y a des années de ça. Et on avait dans les deux cas la même chose, qui sont que la majorité des habitants du pays ont des valeurs qui sont plutôt sociales, où ils considèrent que les gens devraient ne pas être dans la pauvreté, avoir accès à des soins, avoir accès à l'éducation, enfin toutes ces choses-là. Mais quand on regarde le débat tel qu'il est dans les médias ou sur les réseaux sociaux, etc., etc., il y a un décalage finalement qui est assez énorme. Et on se rend bien compte qu'on est dans un système de discussion et de débat qui est orienté, qui est pas le reflet d'une majorité. Et nous, on est intégrés là-dedans. Et c'est quelque chose qui, je pense, est très intéressant. On l'a à la fois en politique et on l'a également dans les réseaux sociaux. Il y a un chercheur comme Olivier Hertzschild qui a écrit plusieurs livres sur les réseaux sociaux, qui est à Nantes, qui dit un truc très intéressant là-dessus. en disant c'est une question de poule et d'œuf. Et donc, est-ce que les réseaux sociaux nous manipulent ou est-ce qu'on manipule les réseaux sociaux? Ben, en fait, les deux à la fois. Et effectivement, celui qui a le pouvoir de légèrement orienter dans un sens, il arrive à changer ça.
Je pense que ça s'applique assez bien à cette problématique d'offre politique, où effectivement, bah, les hommes politiques, beaucoup, sont opportunistes. Et s'ils pensent qu'ils vont gagner des votes, qu'ils vont gagner des places, en orientant leur discours et en orientant leurs promesses dans un certain sens, ils vont le faire, normalement, hein, en tout cas, c'est comme ça que ça semble s'organiser. Et donc, si au contraire, ils pensent que ça sert à rien parce que les gens ne vont pas se déplacer le jour dit, qu'ils seront abstentionnistes, ah oui, clairement, il va y avoir une motivation à orienter leur offre politique d'une autre manière. Donc, la poule et l'œuf s'appliqueraient assez bien.
Ouais, moi, je vois ça comme un problème économique. C'est-à-dire que ce soit de l'économie de l'attention ou du temps de médias ou de l'argent, aux États-Unis, on sait que les candidats sont massivement financés par des entreprises. S'ils veulent avoir des sous pour faire une campagne, il faut que les entreprises qui les financent soient contentes. Et donc, ça va orienter les choses. Chez nous, un politicien qui veut arriver à quelque chose, il faut qu'il soit présent dans les médias. Et si ce qu'il dit ne correspond pas au temps des médias et au genre de débat qu'ils veulent faire et que ça fait pas assez de buzz et ce genre de choses, alors ils y sont pas. Donc, ils sont tentés, pour des questions voilà, d'existence dans les médias, d'aller là où ça marche et de faire du débat stérile, débile, etc. Et en face, les autres, ils disent bah, « c'est ça qui marche ». Donc même s'ils préféraient peut-être individuellement avoir des débats intelligents et sur des vrais sujets, etc., ils disent bah, « on fait de l'audience si on fait de la merde scandaleuse ». Et du coup, on se retrouve dans des systèmes où il n'y a pas de pilote. Et souvent, on aime bien cette idée de dire « voilà, les réseaux sociaux vous manipulent » et voilà avec cette idée d'un truc complètement hiérarchique. Or, on est dans des boucles. Je pense qu'on est effectivement plus dans ce genre de système-là. Il y a des gens qui voilà, vont essayer de pousser dans un sens ou dans l'autre, mais finalement, personne n'arrive vraiment à le diriger, ce qui est peut-être assez inquiétant au final.
Alors moi, je rajouterais, c'est que le vote, je pense que c'est un outil qui est particulièrement utile, hein, qui est très utile, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de nos systèmes démocratiques. C'est très légitime quand on est auprès de la population. Les maires sont souvent considérés comme les plus légitimes parmi les différents élus. Alors que le président de la République, malheureusement, il a l'élection la plus visible et la plus importante médiatiquement, historiquement, en tout cas, il semble avoir le plus d'impact. Mais pourtant, c'est lui qui est le plus éloigné, le plus distant. Et je trouve que les élections, c'est un outil qui est un peu un marteau et on imagine que ça va résoudre et que ça va s'appliquer sur tous les clous de tous les problèmes du monde. Ça marche pas dans tous les cas et on devrait utiliser d'autres outils. Il y a d'autres marteaux. Je pense au tirage au sort que je trouve intéressant. C'est pas non plus un idéal, mais on devrait essayer de creuser un peu plus là-dessus.
Oui, oui, et au-delà de ça, je pense que c'est pas qu'une question de désigner des gens, c'est aussi une question de discuter, d'avoir des débats, et aujourd'hui on est dans des situations où on a relativement peu de pouvoir dans ces choses-là, par manque d'organisation, et qu'au final ce sont les forces les plus organisées qui arrivent à avoir le plus de poids pour orienter un débat. Et si on veut faire un parallèle avec l'informatique, et l'informatique libre c'est bien, mais on se retrouve face à des systèmes. Alors que ce soit du code où en face, il y a beaucoup d'argent qui permettent de faire des codes propriétaires et d'enfermer les gens, etc. Et donc du coup, d'un côté, ils peuvent dire « Ah là là, on est prisonnier de Microsoft, tu vois, dans des grosses entreprises. On aimerait bien ne pas y être, mais à aucun moment, ils arrivent à en sortir parce qu'ils n'ont pas la surface nécessaire. » Ou par rapport aux réseaux sociaux, avec ces questions-là d'orientation, par exemple YouTube, tu vois, où il y a plein de YouTubeurs qui aimeraient en sortir, qui critiquent la plateforme, mais ils disent « C'est tellement central » que si on n'est pas dessus, on n'existe plus, donc on arrête de faire ce qu'on fait. Et c'est bien cette question d'avoir des organisations collectives qui nous permettent d'exister, d'avoir du poids dans ce débat-là et dans cette espèce de foire d'empoigne où il n'y a pas de chef, mais où il y a quand même des gens qui pèsent plus lourd que d'autres.
Et qui nous manipulent, n'oublions pas. Il faut
voilà,
réfléchir.
Et qui se manipulent eux-mêmes. Pour moi, oui, c'est le truc sûrement. Le plus inquiétant au final, c'est que je pense que par envie de gagner et d'y aller.
Ils croient à leurs propres mensonges au bout d'un moment.
Voilà, où ils se lancent dans des trucs complètement cons en disant ouais, la fin justifie les moyens et donc ils ne contrôlent pas vraiment où ça va. Et donc ce qui est tout à fait inquiétant et ce qui veut dire qu'il ne faut pas leur faire confiance ou espérer qu'il y aura un homme providentiel. Hein. Le Père Noël n'existe pas. Donc il faut se prendre en main. Le logiciel libre, c'est une chose qui permet de le faire et on peut tous le faire de plein de façons différentes. Essayer de s'organiser, de peser, d'essayer d'avoir des zones de débat, des outils. Toutes ces choses-là sont absolument nécessaires si on veut parvenir à reprendre un peu de pouvoir dans ce grand jeu-là.
Allez, moi je termine. Le pouvoir est une charge trop lourde qui corrompt et il faut la décentraliser, il faut la répartir et il faut éviter un Père Noël dans lequel on met tous nos espoirs. Non, ça marche pas. Allez, le dernier mot, je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, salut.